Totem, le jardin secret. Une célébrité vous raconte sa vie en quelques mots.
Avec ce podcast, vous allez replonger dans la vie de Sylvain Augier. On est allé fouiller dans nos archives pour retrouver cet entretien effectué avec lui en 2008. Il avait été notre invité à l'occasion de la sortie de son livre « L'instant où tout a basculé ». On voulait rendre hommage à Sylvain Augier à travers ce document dont on a appris la disparition hier à l'âge de 68 ans parce qu'il avait plein de points communs avec nos régions. Le Gard, où il s'était retiré depuis quelques années. Toulouse, où il était né. Ce livre s'appelait « L'instant où tout a basculé » parce qu'en 88, Sylvain Augier, en raison de sa passion pour les sports extrêmes, avait bien failli perdre la vie dans les Hautes-Pyrénées. Document d'archives avec Sylvain Augier.
L'instant où tout a basculé, c'est le titre du dernier livre de Sylvain Augier. À cette occasion, il est votre invité cette semaine. Sylvain Augier, bonjour.
Bonjour David.
L'instant où tout a basculé, c'est le 24 août 1988. Ce jour-là, vous faisiez du parapente et vous auriez dû mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Sylvain Augier ?
Eh bien, ce jour-là, je volais dans les Hautes-Pyrénées, là où j'ai appris à faire du deltaplane et où j'ai volé pendant des années au-dessus de Val-Louron. Et c'était très exactement à côté de Loudenvielle, du pic de Loudenvielle. On décolle à 6 en parapente, en l'occurrence, et j'essaye une aile qui était une aile extrêmement dangereuse, réputée dangereuse, mais pour la deuxième fois. Et j'y croyais pas trop, je me disais, bon, je suis assez fort, j'ai un parachute de secours, je suis assez bon pilote, bref, je me suis cru meilleur que je ne l'ai été dans la réalité. Je monte à 3000 mètres, le groupe s'éparpille, va un peu plus loin, moi je monte, dans ce qu'on appelle un thermique, hein, il faisait très chaud, fin août. Et puis quand je sors de ce courant thermique, ma voile s'est fermée en deux, pliée en deux en torche, et j'ai dû faire plusieurs centaines de mètres de plus en plus vite, parce que ça s'accélère un peu comme un pendule au bout d'une main. Et au moment d'ailleurs, à propos de main, où je me suis dit, bon, bah, j'arriverai pas à réouvrir l'aile comme tous les pilotes regardaient mon aile, j'ai voulu ramener ma main, l'accélération, enfin la force centrifuge était telle que j'ai même pas pu tirer mon parachute de secours, et là j'ai impacté le sol. Et je me suis pas tué, par chance, une chance folle, parce qu'il y avait un pierrier d'un côté, un précipice de l'autre, et moi je suis tombé dans la bonne herbe moussue des Pyrénées, mais c'était un petit triangle de 5 mètres sur 10, quoi, vraiment minuscule. Sauf que je me suis retrouvé avec un pied complètement arraché et une artère sectionnée nette. Une artère, c'est comme un tuyau qui vous vide de votre sang en quelques minutes, hein. Et j'avais aussi une main disloquée qui était sur l'épaule. Enfin, c'était gore, c'était massacre à la tronçonneuse.
Sur le moment, justement, Sylvain, étiez-vous conscient d'être passé à côté de la mort ?
Ah bah bien sûr, évidemment. Si jamais la tête avait touché, je serais ou tétraplégique ou paraplégique, et surtout, j'aurais dû me tuer. Mais sauf que j'étais perdu en haute montagne, personne m'avait vu tomber. C'était dans un tout petit endroit que personne ne voyait, en tout cas, c'est ce que je croyais. Et j'ai attendu les secours pendant une heure et demie. Et j'ai eu le réflexe, la chance, de me souvenir de ce que m'avait dit le docteur Jean-Louis Etienne à l'occasion d'une expédition qu'on avait faite en Patagonie quelques années avant, de boucher mon artère avec ma main droite, mon gant et ma main droite, pour empêcher mon sang de se vider, parce que sinon je me serais vidé comme un lapin en un quart d'heure, quoi. Et c'est ça qui m'a sauvé. Le miracle a commencé là. Mais pendant une heure, j'ai vraiment cru que c'était mon agonie, quoi, la fin de ma vie. D'ailleurs, je me refroidissais, je sentais très bien le sang partir de toute façon. Je me suis réfugié à la fois dans une prière pour avoir l'air serein, et en même temps, je fredonnais une chanson de Goldman, parce que j'aime ses chansons, et je voulais qu'on puisse dire à ma mère, on l'a retrouvé, il était mort, mais il avait un sourire sur les lèvres. C'est bête, mais c'est ça qui m'a aidé à tenir moralement. Et puis, un hélico est arrivé et m'a sauvé. Et après, je suis rentré dans un long tunnel de souffrance physique et psychique qui a duré des années et des années. C'est ça que je raconte dans le livre.
Alors, vous dites que depuis ce jour-là, la vie n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui a changé, Sylvain Augier ?
Tout. Parler à n'importe qui d'un accident. Parce que moi, ça se passe en parapente. Mais parler à quelqu'un qui a eu un accident de voiture, de moto, qui s'est fait renverser par une voiture en tant que piéton ou à vélo... Je peux vous dire qu'ils vous diront tous la même chose. Il y a la vie avant l'accident et la vie après l'accident. Parce qu'il y a forcément des séquelles physiologiques qui sont en général une douleur qui continue. C'est ce qui est mon cas. Je vis avec une douleur permanente. Et croyez-moi, ça change la perspective de chaque jour au quotidien. C'est difficile de vivre avec une douleur. Et puis, moi, j'ai subi des complications du type gangrène, infection osseuse, qui sont... extrêmement classique aussi, et rajouter à ça une dépression qui a été extrêmement violente et qui m'a obligé à faire une psychothérapie pendant plusieurs années. Donc, autant vous dire qu'on voit plus la vie pareille, quoi. Mais j'y ai puisé une force gigantesque.
Alors, il y a eu une vie avant, une vie après. Vous nous racontez tout cela dans votre livre. Demain, on s'intéressera à votre enfance passée en partie dans la région toulousaine. À demain, Sylvain Augier.
À demain, David.
Totem, le jardin secret.
Pionnier des vues aériennes depuis plus de 15 ans, cette semaine, Sylvain Augier survole pour vous sa vie. On le reçoit car il vient de publier L'instant où tout a basculé, un ouvrage dans lequel il revient sur son parcours. Sylvain Augier, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, je devrais plutôt vous appeler Sicilou, car ce matin, on va parler de votre enfance.
Et, alors,
et c'était votre surnom.
Je m'en donnais mes 45 cousins dont je suis l'aîné. Voilà, c'est mon surnom de guerre, mais de gamin quand on se bagarrait dans la maison de ma grand-mère.
Alors aujourd'hui, si on demandait à nos auditeurs d'associer votre nom à un moyen de locomotion, ils répondraient tous, j'en suis sûr, l'hélicoptère. À ce propos, est-ce que tout petit, vous étiez déjà attiré par les objets volants, Sylvain Augier ?
Ben oui, forcément, parce que étant toulousain, j'avais fait mon baptême de l'air en plein air parce que j'avais eu une bonne note en maths qui était très rare chez moi à Montaudran, figurez-vous, qui est quand même l'escale de l'aéropostale. Et puis n'oubliez pas qu'à cette époque-là, je suis né en 1955, j'avais donc 14 ans, si mes souvenirs sont bons, lors du premier vol du Concorde, et il se trouve que mes parents connaissaient très bien André Turca, qui est devenu un ami, et j'étais fasciné par tout ce qu'il volait, et je me suis juré d'apprendre à voler. J'ai même hésité à devenir pilote, et à dire vrai, quand j'étais en troisième ou en seconde au lycée Fermat, à Toulouse donc, j'ai hésité entre une carrière de pilote et le fait d'être journaliste. Et en fait, la vocation ou la passion l'a emporté, c'est le journalisme qui l'a emporté. Je me suis dit, avec le journalisme, je pourrais voler à bord de tout ce qu'ils veulent, et ça s'est révélé vrai. Alors autant vous dire que c'est une passion qui me tient au cœur.
Et ce qui est peu commun, tout petit, vous avez volé aussi sur un vélo, Sylvain Augier.
Oui, on m'a offert un vélo de course dont je rêvais, qui était un très beau cadeau. Et la première chose que je me suis empressé de faire, c'est de monter des ailes très solidement. Hein. J'ai fait ça très sérieusement. Et puis je suis monté, la maison de famille est du côté du Gers. Il y a beaucoup de côtes et de descentes bien aiguës. Et je me suis lancé à toute vitesse avec mes ailes sur mon vélo. Et le vélo a décollé, effectivement. Pas longtemps. Hein. Et j'y ai laissé quelques dents de devant. Et une expérience non pas du tout amère, mais je me suis dit, je recommencerai. C'était vraiment ces merveilleux fous volants. En plus, je venais de voir le film, donc je me suis dit, moi aussi, je vais voler.
Dans vos émissions, vous nous avez fait partager aussi votre goût du voyage. Là aussi, remonte-t-il à votre enfance, Sylvain Augier ?
Oui, à mes lectures. Et j'avais envie de découvrir vraiment le monde. Et j'avais réalisé aussi que, comme le disait Jules Verne, qui était aussi un de mes auteurs préférés, que la vie est courte et que le monde est vaste. Donc j'avais envie de voyager. Le journalisme peut me permettre de le faire, et en plus de faire partager aux autres. C'est comme ça qu'il ne faut pas rêver d'ailleurs.
Et tous les étés, vous partiez aussi à l'étranger tout petit, donc déjà
oui.
Vous voyagez.
Oui, mon père m'avait dit, passe ton bac et surtout, possède au moins une langue couramment, l'anglais si possible, et l'espagnol éventuellement. Et c'est l'anglais que j'ai choisi. Il dirigeait l'usine de Motorola qui venait de s'implanter à Toulouse, et j'ai eu la chance de partir très tôt, d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis à plusieurs reprises pendant tous les étés de mon adolescence, et j'y ai appris à me débrouiller sur place tout seul comme un grand, déjà pour commencer, et puis à parler anglais quasiment couramment, et c'était un excellent conseil que m'a laissé mon père, que je remercie encore aujourd'hui.
Avec papa, et vous le dites dans le livre, vous aviez des relations tendues. Pourquoi, Sylvain Augier ?
Oh, parce que je crois que on ne se pose que sur ce qui s'oppose, comme on dit. Non, tous les adolescents ont des rapports conflictuels avec leur père et disent « je ferai mieux que papa, je ferai pas comme lui ». Moi, je le voyais diriger une usine et avoir des horaires impossibles. Je le voyais surchargé de boulot, stressé le week-end avec ses dossiers. Et je me suis dit « moi, j'aurai une vie marrante où je ferai ce qui me plaira et en plus, je me débrouillerai mieux que lui ». C'est vraiment, c'est après coup que je me suis réconcilié avec lui, et notamment après sa disparition il y a quelques années, que je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas du tout en opposition avec lui, mais simplement quand on est adolescent, le principe c'est de s'opposer à ses parents, sinon on n'existe pas, quoi.
Papa voulait que vous soyez haut fonctionnaire, votre rêve c'était de faire de la radio, la route a été difficile, dites-vous dans le livre, on verra demain comment vous êtes parvenu à vos fins. À demain, ouais. Sylvain Augier.
À demain.
Totem, le jardin secret. Une célébrité passe la semaine avec vous et se raconte.
Son père voulait qu'il soit haut fonctionnaire. Lui a préféré une carrière dans l'audiovisuel. C'est Sylvain Augier qui est votre invité jusqu'à vendredi. Il vient de publier L'instant où tout a basculé. Sylvain Augier, bonjour.
Bonjour.
Vos débuts dans les médias, on va les évoquer dans le rendez-vous de ce matin. C'est la radio au départ qui vous a tiré. Pour en faire, la route a été difficile, dites-vous dans le livre. C'est finalement grâce au désistement d'un stagiaire que vous êtes parvenu à vos fins, Sylvain Augier.
Alors oui, mais à l'origine, il se trouve quand j'étais en première C, je crois, à Fermat, Pierre de Fermat, j'ai été atteint bêtement par une maladie au poumon parce que j'avais roulé trop vite en moto, torse nu alors qu'il faisait très froid après un tournoi de ping-pong, et j'ai évidemment chopé une congestion pulmonaire. Donc pendant 4 mois au lit. Et mes parents ont eu l'intelligence, la chance de m'offrir, la chance pour moi de m'offrir une radio. Et j'ai découvert l'univers de la radio, et notamment celui de Radioscopie et de Jacques Chancel. Et je me suis juré de faire de la radio, de faire comme lui. Et donc, rentré de mon service militaire, en tout cas ma coopération au Nicaragua, où j'ai vécu beaucoup d'événements qui journalistiquement m'ont énormément titillé, une guerre civile, une éruption volcanique, un tremblement de terre et pas mal d'autres choses, pas mal d'autres aventures. Je rentre à Paris et puis je fais la tournée des popotes en allant essentiellement à France Inter. Et un jour, on me dit, si jamais par hasard demain, parce qu'il y a un stagiaire qui n'est pas venu, est-ce que s'il ne se représente pas, on peut t'appeler et tu arrives? J'ai dit oui. À 4h du matin, le téléphone a sonné. On m'a dit, ben, il n'est pas venu, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, ah, ben oui, je suis là tout de suite. J'y suis resté pendant 15 ans.
Alors, on va évoquer vos débuts à partir de quelques toutes premières fois. Commençons par le premier reportage, puisque vous étiez journaliste. Vous vous en souvenez?
En l'occurrence, moi, c'était deux enfants qui avaient été écrasés par une grue qui s'était abattue dans la cour d'une école. Et j'ai eu le réflexe par rapport à mes confrères beaucoup plus aguerris que moi. Il y avait impossibilité d'obtenir un témoignage. Et je me suis dit, mais il y a des immeubles au-dessus. Alors j'ai sonné à toutes les sonnettes de tous les appartements qui surplombaient la cour de l'école. Et évidemment, je suis tombé sur deux ou trois personnes qui avaient vu la grue tomber et qui m'ont offert deux témoignages, ce qu'on appelait des sons, des témoignages sonores, que les autres radios n'avaient pas. Et de ce jour-là, j'ai gagné mes galons de reporter tout terrain. Et Jérôme Bellet, qui était le patron de la radio à l'époque, m'envoyait partout. Il m'appelait le petit qui ramène tout. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez de l'info pure et dure, et de la sortie du Conseil des ministres et de beaucoup d'autres choses de ce genre, j'avais pas envie de présenter de journal à l'antenne, je rêvais d'animer une émission. Et un jour, Jean Garretto, qui avait créé L'Oreille en coin et FIP, m'a proposé d'animer une émission, je suis devenu animateur, donc 5 ans après être rentré à la rédaction de France Inter.
Le premier direct, ça n'a pas été pour autant cette émission, Sylvain Ogier.
La première émission en direct, non, c'est Yves Montrosy qui m'a proposé de la faire. Alors que j'étais jeune journaliste, à peine embauché à la rédaction, il m'a proposé de faire un papier sur une petite fille qui était née couverte de poils en Chine, et il m'a dit, je te donne tout le temps que tu veux à la fin du journal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, à l'époque il faisait les journaux du week-end, et il m'a dit, mais débrouille-toi pour être drôle. Et c'est la première fois que j'ai été mis en direct, mais vraiment devant un micro, et je peux vous dire que j'avais une peur panique de trébucher, de me tromper de mots. Et j'ai vu Mourouzi mort de rire, et de ce jour-là aussi, on m'a laissé faire de l'antenne en direct.
Enfin, quelle a été la première télé de Sylvain Ogier?
Alors, la toute première télé, c'est un jeu que j'avais proposé à Pascal Brogniaud à l'époque, qui faisait Sexy Folie, qui était une émission qui faisait scandale. Et j'avais inventé un jeu qui s'appelait Coquin Maillard, où trois couples assez déshabillés, pour ne pas le dire presque complètement, devait se reconnaître au toucher avec un bandeau sur les yeux, le principe de Conan Maillard, quoi. Ça m'a pas laissé un grand souvenir. J'ai préféré rejoindre l'équipe de Philippe Gildas à l'époque où Canal Plus venait de démarrer. Et là, je me suis énormément amusé avec Gildas, Jérôme Bonaldi, Antoine Decaune, et ensuite l'équipe qui allait les rejoindre, des nuls, les Guignols n'existaient pas encore. Mais les débuts à Canal Plus ont été un souvenir professionnel et d'affection formidable.
Ces anecdotes et tant d'autres sont à retrouver dans votre livre, Sylvain Ogier, un livre dans lequel on retrouve aussi ceux qui ont compté dans votre vie. On évoquera quelques personnalités importantes demain dans notre avant-dernier rendez-vous. À demain.
Totem, le jardin secret.
Jusqu'à demain, c'est Sylvain Ogier qui est votre invité. Il est avec nous à l'occasion de la sortie de son livre « L'instant où tout a basculé ». Sylvain Ogier, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous évoquez notamment quelques personnalités qui ont compté dans votre vie et dans votre carrière. On va revenir sur quelques-unes ce matin. Voici la toute première.
Nicolas Hulot.
Alors, qu'est-ce qui représente pour vous Nicolas Hulot, Sylvain Ogier?
Nous avons le même âge, exactement, à quelques jours près. Et quand j'ai démarré à France Inter, lui commençait aussi des chroniques où il essayait des motos chez Patrice Bonfancard. Et moi, j'étais journaliste à la radio. Et je trouvais qu'il avait énormément de talent. On était extrêmement copains. On l'est resté, d'ailleurs. Et ensuite, il a créé une émission qui s'appelait Les Fêlés, qui allait devenir Ushuaïa. Et son exemple m'a beaucoup servi. Je dois dire que je me suis beaucoup appuyé sur... on a beaucoup parlé, on se voyait beaucoup. On échangeait comme deux copains qui démarrent avec la même passion, dans le même métier, dans la même radio. Et nos parcours sont similaires sans être les mêmes parce qu'on est différents l'un et l'autre, mais je dois dire que Nicolas est vraiment, comme Jérôme Bonaldi, comme pas mal d'autres personnes, mais enfin je peux au moins citer ces deux-là qui me reviennent à l'esprit tout de suite, voilà, on jouait beaucoup dans mes débuts professionnels, ouais.
Un autre homme de télé.
Georges Pernoud.
Alors c'est grâce à lui que vous avez présenté Faut pas rêver, mais en vous lisant, ça n'a pas toujours été l'entente cordiale, hein, Sylvain Ogier.
C'était pas une émission facile à faire, c'était une émission difficile à produire. Georges en était le producteur, c'est un excellent professionnel. Moi j'étais l'animateur, il m'avait demandé de m'approprier l'émission. Et au bout de 8 ans, et après 2 sets d'or, et donc un succès, je crois, incontestable, notamment quand on a été programmé après Thalassa, un jour, il m'a annoncé mon départ. Il m'a dit, on peut pas. Ça a été une décision très difficile à prendre. Je pense que c'est une décision qu'on lui avait demandé de prendre, pour une raison que je ne me suis pas encore expliquée. J'ai préféré partir sans me battre et passer à autre chose. Je n'en veux absolument pas à Georges d'avoir dû me dire « pars ». Je pense qu'il ne faut pas garder de rancœur ni être amer dans ce genre de situation-là. Il faut partir parce que la vie vous fait signe de partir et d'aller ailleurs. Et l'expérience prouve que, en général, c'est pour rebondir plus haut, plus fort, plus loin. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui s'est produit.
Une autre personnalité.
Michel Drucker.
Alors lui, vous l'adorez. C'était, j'ai envie de dire, un rêve de travailler avec lui.
Ah ben, Michel, je l'ai découvert à la télévision quand il démarrait le dimanche après-midi. Moi, je devais avoir 13 ou 14 ans. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la télévision. J'ai rêvé de le rencontrer. J'ai mis des années à arriver à le rencontrer jusqu'au jour où j'ai fini par créer un lien avec lui et où il m'a dit « Est-ce que tu veux pas intégrer l'équipe de Studio Gabriel qui démarrait il y a donc une quinzaine d'années? Est-ce que tu aurais pas une idée ?» Et je lui ai dit « Bien sûr que si, on pourrait survoler toute la France en hélicoptère. » Il m'a dit « Mais tu t'en sens capable? Tu as les moyens de le faire ?» Et je lui ai dit « Je vais débrouiller, t'inquiète pas, je trouverai les moyens de le faire. » Et j'aime beaucoup, beaucoup Michel. C'est mon meilleur ami et de loin, et peut-être même le seul vrai ami que j'ai dans ce métier.
Une dernière personnalité pour clore le rendez-vous de ce matin.
Sœur Emmanuelle.
Alors, quel rôle a-t-elle joué, Sœur Emmanuelle?
Important. Un rôle important. C'est un moment où j'allais pas très bien. Je commençais à vraiment me poser des questions sur à quoi sert cette existence, la crise de la quarantaine, voilà, vous voyez. Elle rentrait à 85 ans après avoir passé 20 ans chez les chiffonniers du Caire et elle rentrait sur ordre de sa congrégation. Je l'ai interviewée à la radio et j'ai été subjugué par l'aura qu'il y a autour de cette femme qui est littéralement une sainte. Elle va fêter ses 100 ans au mois de novembre. Je l'ai revue beaucoup. Elle est venue à la maison. Je suis allé la voir dans sa maison de retraite. On entretient des liens réguliers et extrêmement amicaux et elle m'a permis de, je crois, d'élever mon âme à un niveau tel que je n'aurais jamais cru que ça possible. Elle m'a réconcilié avec la foi, sans forcément d'ailleurs que j'ai envie de prendre le voile ou ni de devenir moine, hein. Mais elle a une façon de voir la vie et une façon extraordinairement optimiste et gaie de sourire à tout le monde, quoi, d'aimer tout le monde. Elle m'a appris à aimer le monde et les autres. Et je lui dois énormément de ce que je suis aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, beaucoup.
Pour découvrir votre vie et celle qui l'ont croisée, votre livre, je le rappelle, L'instant où tout a basculé. Quant à nous, on se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous.
D'accord.
À demain.
À demain.
Totem, le jardin secret. Les célébrités vous dévoilent les grandes étapes de leur vie.
Faut pas rêver, la carte au trésor, la une est à vous. Voilà quelques émissions qu'il a présentées. C'est Sylvain Ogier qui est en ligne avec nous pour la dernière fois de la semaine. Je vous rappelle que son dernier livre s'appelle L'instant où tout a basculé. Sylvain Ogier, bonjour.
Bonjour.
Alors le vendredi, on combat quelques idées reçues qui circulent autour de l'invité. À vous de me dire si mes affirmations sont vraies ou fausses et de vous en expliquer. Ouais. Voici la première. Sylvain Ogier, il a failli être prêtre. C'est vrai ou c'est faux?
Non, c'est un peu exagéré. Quand j'étais en Amérique centrale, j'ai vu pour la première fois un bidonville au Guatemala qui était épouvantablement misérable. Et je me suis dit, je peux pas ne pas donner un sens à mon existence qui aille vers le fait de tendre la main vers ces gens. Et je me suis dit, ben pour faire ça, il faut être prêtre. Et puis je me suis dit, ben, prêtre, c'est quand même une vie un peu austère. Alors je suis revenu sur mon opinion, je me suis dit, non, je deviendrai médecin sans frontières. Et puis je me suis aperçu que finalement, mon rôle était d'être journaliste et de raconter ce que je voyais. Et j'ai pas eu la force, car sur Emmanuel qu'on évoquait hier, d'aller vers les plus déshérités, de me battre pour eux. Devenir prêtre, ça m'a parcouru l'esprit, mais je reconnais que j'y ai pensé à un moment, oui.
Sylvain Ogier, il a vendu de la lessive, c'est vrai ou c'est faux?
Ah oui, c'est vrai. C'est un de mes premiers boulots quand je suis sorti de mon bac. et qu'on fait rien avant l'entrée en fac. Donc je récoltais du sorgho, enfin bref, j'ai fait tous les petits boulots qu'on peut imaginer, les vendanges. Et à un moment, on m'a proposé d'aller vendre dans la région de Tarbes des produits de lessive. Alors vous savez, vous toquez aux portes et puis vous avez tout un panel de produits tous plus...
formidables les uns que les autres.
Performants les uns que les autres, c'est ça. Et je fais un essai sur un canapé en cuir d'une dame qui me dit, bah écoutez, montrez-moi. J'ai fait une auréole épouvantable, j'ai bousillé son canapé. Ça a été la fin de ma carrière de VRP à domicile.
Sylvain Augier, il a volé une mobylette tout petit, c'est vrai
non,
ou c'est
non,
faux?
Non, 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 j'ai pas volé de mobylette. Mes parents me refusaient une mobylette. Je me suis dit, j'ai quand même envie d'avoir une mobylette. Et un jour, comme par miracle, sur le chemin du lycée, mais croyez-moi, j'y suis sincère, je trouve une mobylette volée. Elle était sur le chemin du lycée. J'y passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La quatrième fois, je me suis dit, c'est quand même trop bête. Donc je l'emmène au commissariat. Et la loi veut qu'au bout d'un an et un jour, si personne ne l'a réclamée, elle vous appartient. Et les policiers ont été gentils avec moi. Quatre mois après, ils m'ont dit, bon, écoute, personne ne l'a réclamée, la mobilette, vas-y, elle est à toi. Donc je ne l'ai pas volée, le ciel l'a mis sur ma route, ce qui est très différent.
Sylvain Augier, c'est un boulimique de travail. C'est vrai ou c'est faux?
Non, je ne suis pas un boulimique de travail. Je suis un boulimique de sensations. Je déteste le travail au sens des obligations qui m'ennuient. Je déteste les réunions, je tiens pas en place, j'arrive pas à être constant, je déteste les chiffres, je me perds dans tout ce qui est compte bancaire, date d'anniversaire, ou je suis fâché avec les chiffres, voilà. Donc boulimique de travail, non, mais en revanche boulimique de sensations et bourré d'envie, et ça reste vrai aujourd'hui, c'était déjà le cas quand j'étais gamin, et ça reste vrai aujourd'hui où j'ai 53 ans, j'ai l'impression d'en avoir 16. Ça, oui, je suis bourré d'envie de réaliser des projets et d'énergie pour le faire. Ça, c'est vrai.
Une dernière affirmation pour Sylvain Augier, la télé, c'est fini. D'accord ou pas d'accord?
J'en sais rien. Ça dépend. Moi, j'ai jamais cherché à me mettre devant une caméra juste pour montrer ma tête. J'ai cherché à animer des programmes qui me plaisaient et je dois vous dire que c'est la télévision qui est venue me chercher et non pas moi qui ai dragué la télé. Donc si jamais la télévision veut me voir revenir, ils sauront très bien venir me chercher. Moi pour l'instant j'ai des activités de producteur comme par exemple le DVD de la France, de l'Europe vue du ciel, puis maintenant du 1300e anniversaire du Mont-Saint-Michel. Et là j'ai en tête d'écrire un long métrage pour le cinéma. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours refusé, je continuerai à le faire, des propositions comme on me l'a fait à l'époque pour le maillon faible. On m'avait proposé de présenter le maillon faible.
Sans blague.
C'était TF1 et Étienne Mouzotte à l'époque. J'ai refusé malgré le pendant qu'il me faisait, ça ne m'intéressait pas. Je ne suis pas fait pour ça, quoi. Donc, si la télévision a envie de me voir revenir, ils sauront très bien venir me chercher, mais ça se fera à mes conditions et à condition que ce soit surtout quelque chose d'intéressant à faire. Sinon, non.
D'ici là, pour découvrir votre vie bien remplie, l'instant où tout a basculé, c'est votre livre, Sylvain Augier. Merci en tous les cas d'avoir passé la semaine avec nous.
Oh, c'était un grand plaisir.
À très bientôt, Sylvain Augier.
À bientôt, David. Merci beaucoup.
Totem, le jardin secret. Tous les jours à 9h10 et le samedi de 9h à 10h pour les meilleurs moments.